Dès leur première rencontre, Loupé n'avait-elle pas appelé Ambré le dernier chien ? Le dernier, avait-elle répété. El último perro. El último perro. Comme si Ambré était le roi des chiens des toits, le roi des bouffetous, le dernier bouffetous. Ça va aller, avait-elle maintes fois dit à Ambré. C'est pas ta faute tout ça. Ce n'était pas l'impression qu'il donnait. Le lion était assis dans un coin de la cage, l'air coupable. Il se tenait le plus loin possible de l'endroit où Loupé était roulé en boule, dans l'angle opposé, près du sas. Juan Diego ne distinguait pas le visage de sa sœur. Sur le moment, il en fut soulagé, mais plus tard, il regretta de ne pas avoir vu son expression. Ça lui aurait épargné de l'imaginer pour le restant de ses jours. Ambré avait tué Loupé, d'un seul coup de dent. Une morsure terrible au niveau de la nuque, conclut le docteur Vargas après l'avoir examiné. Il n'y avait pas d'autres blessures sur son corps, même pas une marque de griffe. De rares traces de sang étaient visibles dans la zone de la morsure, et pas une goutte ailleurs dans la cage. Ignacio présuma plus tard que Ambré devait avoir léché le sang, ce qui n'avait pas empêché de finir sa viande. Du sang, la cage en fut tout éclaboussée après qu'Ignacio eut tué le lion, deux coups de feu dans sa grosse tête, à l'endroit où il s'était réfugié. Son air contrit n'avait pas sauvé le fauve triste et désorienté. Juan Diego avait couru avec sa patte folle jusqu'à la tente du dompteur, et celui-ci s'était précipité sur la scène de crime, revolver à la main. Ignacio avait abattu Mañana parce que le cheval s'était cassé la jambe. Pour Juan Diego, rien ne justifiait qu'il fasse subir le même sort à Ambré. Car Loupé avait raison, ce qui était arrivé n'était pas de la faute du lion. Ignacio l'avait abattu par lâcheté. Après le massacre de Loupé, la cage du crime devenait territoire inconnu. Et il n'osait pas y entrer. Et puis, le macho était plein de préjugés sur les animaux mangeurs d'hommes. Selon lui, lorsqu'un humain était victime des crocs d'un lion, c'était toujours de la faute de l'animal. Même si Loupé s'était parfois méprise, elle avait très justement prévu tout ce qui allait se passer si le lion la tuait. Elle savait qu'Ignacio abattrait ensuite Ambré, et elle devait aussi en avoir anticipé les conséquences. Juan Diego mesura le lendemain matin la préscience de sa sœur, une préscience surhumaine, sinon divine. Le jour de la mort de Loupé, le Circo de la Maravilla fut envahi par ces gens qu'Ignacio appelait les autorités. Dans la mesure où le dompteur s'était toujours considéré comme l'autorité supérieure, il avait du mal à tolérer celle des autres, de la police et des officiels. Il répondit sèchement à Juan Diego quand celui-ci annonça que Loupé avait donné à manger aux lionnes avant d'aller voir Ambré. Elle savait que si elle ne s'en chargeait pas comme à son habitude, personne d'autre ne le ferait à sa place. Juan Diego était passé les voir après la mort de Loupé et de Ambré. La veille, Loupé avait aussi déverrouillé l'ouverture de leur cage. Elle avait dû les nourrir. Puis elle avait retiré le plateau et l'avait laissé devant le sas, comme elle avait fait avec celui de Ambré. D'ailleurs, les lionnes avaient l'air repues. Allongées au fond de leur cage, las señoritas avaient toisé Juan Diego de leur regard impénétrable. Ignacio se fichait pas mal que Loupé ait nourri les lionnes avant de mourir, et pourtant ça changeait tout, absolument tout. Ça signifiait que personne d'autre ne devait leur donner à manger le jour où Loupé et Ambré avaient été tués. Juan Diego avait voulu rendre les clés des sas à Ignacio, mais celui-ci ne les avait pas prises. « Garde-les, j'ai les miennes », lui avait-il dit. Naturellement, frère Pépé et Edward Bancho avaient interdit à Juan Diego de passer une nuit de plus dans la tente des chiens savants. Il l'avait aidé à ranger ses affaires et à rassembler les rares effets de Loupé. Durant son déménagement précipité de la Malavia aux enfants perdus, Juan Diego avait égaré le couvercle de la boîte à café. Et cette nuit-là, il dormit dans son ancienne chambre, le cordon de Loupé autour du cou, avec contre sa peau les clés des deux cages. Dans l'obscurité, il les serra entre le pouce et l'index avant de s'endormir. À côté, dans le petit lit où dormait autrefois Loupé, l'homme perroquet veillait sur lui. Du moins, quand il n'était pas en train de ronfler. Les garçons se rêvent en héros. Ce ne fut pas le cas de Juan Diego après la mort de Loupé. Il savait que sa sœur avait voulu le sauver. Il savait aussi qu'il n'avait pas réussi à la sauver. Le destin l'avait marqué au plus profond de son être. Malgré ses 14 ans, il en avait pleinement conscience. Le lendemain matin, il fut réveillé par le chant des enfants. Les maternelles répétaient la prière alternée de Sœur Gloria. « Ahora y siempre », psalmodiaient les enfants. « Maintenant et à jamais. » « Non, pas ça. Pas jusqu'à la fin de ma vie », se dit Juan Diego. Il était éveillé, mais il gardait les yeux fermés. Il ne voulait pas les ouvrir sur son ancienne chambre des enfants perdus. Il ne voulait pas voir le petit lit à présent occupé par l'homme perroquet. Ce matin-là, le docteur Vargas examinait le corps de Loupé à la requête du père Alfonso et du père Octavio. Ils avaient l'intention de venir à la Croix-Rouge avec une des religieuses de l'orphelinat. On se demandait en effet comment vêtir la petite défunte, et si, compte tenu de la morsure du lion, le cercueil devait rester ouvert. Frère Pépé ayant décrété que la vue du corps de Loupé était au-dessus de ses forces, les deux vieux prêtres avaient proposé cette rencontre à Vargas. Ce même matin, pour autant qu'on pouvait le savoir à la Malavilla, Dolores avait purement et simplement disparu. On ne parlait que de ça au cirque, tant on jugeait incroyable que personne ne l'ait vue en ville. Une jolie fille comme elle avec ses longues jambes, ça ne disparaissait pas par l'opération du Saint-Esprit. Ignacio était sans doute le seul à savoir qu'elle se trouvait à Guadalajara. Peut-être l'avortement bâclé avait-il déjà eu lieu et l'infection péritonéale n'en était-elle qu'à ses prémices. Peut-être Dolores imaginait-elle qu'elle allait guérir et qu'elle ne tarderait pas à revenir à Oaxaca. Ce matin-là, aux enfants perdus, Edward Bancho avait l'esprit très occupé. Il avait une lourde confession à faire au père Alfonso et au père Octavio. Une confession comme il n'avait pas l'habitude d'en entendre. Et il savait qu'il avait besoin du secours de l'Église, puisque, non content d'avoir rompu ses vœux, voilà qu'il se découvrait homosexuel, amoureux d'un travesti. Un couple pareil adoptait un orphelin. Comment autoriser Edward Bancho et Flore à devenir les tuteurs de Juan Diego? Bancho avait certes besoin de l'aide de l'Église, mais il avait surtout besoin qu'elle fasse une entorse à ses principes, une sacrée entorse à vrai dire. Ce matin-là, à la Maravilla, Ignacio savait qu'il devrait donner à manger au lion lui-même, faute de pouvoir en persuader quelqu'un d'autre. Soledad ne lui adressait plus la parole, et il avait réussi à terroriser les petites acrobates. « C'est des lionnes qu'il devrait se méfier », avait prédit Loupé. Ce matin-là, le lendemain du jour où il avait abattu Hombre, le dompteur dut commettre une erreur en allant les nourrir. « Elles ne peuvent pas m'avoir, je sais ce qu'elles pensent. Ça saute aux yeux quand on les voit. Je n'ai pas besoin d'extra lucide pour la señoritas », avait-il déclaré. Or, il faut croire que lire dans les pensées des lionnes était moins facile qu'il ne le croyait. D'après les études menées dans le Serengeti, comme Vargas le confierait plus tard à Juan Diego, ce sont majoritairement les femelles qui tuent. Elles chassent en meute. Quand elles traquent un troupeau de gnous ou de zèbres, elles l'encerclent et lui interdisent toutes les issues avant d'attaquer. Lorsque Juan Diego et Loupé avaient rencontré Hombre pour la première fois, Flore avait murmuré à Edward Bancho « Tu crois que tu as vu le roi des animaux dans sa cage, mais tu te trompes. C'est maintenant que tu vas faire sa connaissance. Le roi des animaux, c'est Ignacio. » « Le roi des porcs », avait corrigé Loupé. Dans les études sur les lions du Serengeti et toutes les autres sur les grands fauves, le seul détail qu'Ignacio aurait compris avait trait à ce qui se passe dans la savane une fois que les lionnes ont tué leur proie. C'est là que les mâles affirment leur domination. Ils se taillent la part du lion avant d'autoriser les femelles à profiter du festin.